Et voilà, un retour en direct sur Radio Barta 107.0. Guillaume Martin, donc tu es syndicaliste à la CGT FATP.
FAPT.
FAPT.
La Fédération des activités postales et de télécommunications.
Voilà. Donc, de nombreux Floraquois ont pu te voir et voir d'autres facteurs dans les rues jeudi dernier avec une pétition qui a reçu un accueil, un bon accueil de la part de la population, puisque des centaines de signatures.
Oui. Hein. Plus de 300 signatures recueillies, on va dire, en un jour et demi à peu près.
Voilà.
Ouais, c'est colossal et ça montre l'attachement de la population à un service public postal de qualité, tout simplement. Hein.
Mm-hmm. Donc grève jeudi, grève vendredi ?
Oui, on a reconduit le mouvement vendredi parce que on avait reçu des propositions de la Poste jeudi soir, on va dire, assez tardivement. Il était 18h30, 19h. Ce relevé de décision allait plutôt dans le bon sens, mais on avait besoin de précisions. Rendez-vous était pris le lendemain donc avec la directrice de l'établissement Courrier-Demande. Dans un premier temps, je lui ai proposé de la rencontrer à 9h, ça n'a pas été possible, parce qu'elle m'a dit qu'à ce moment-là, elle serait présente à la prise de service à Florac à 7h30, mais que dans notre côté, elle devait retourner en Mende pour 8h30.
Ah oui, c'est...
Donc, sachant que pour aller de Florac à Mende, il faut au minimum 35 minutes, elle laissait, on va dire, assez peu de temps à la négociation. Donc le but de sa visite, à mon avis, n'était absolument pas de négocier, elle était surtout de persuader les facteurs de reprendre le service. Et les facteurs ont fait bloc et ont refusé ça, et donc on a reconduit le mouvement. Rendez-vous a ensuite été pris à 13h à Mende. Ça nous a laissé le temps de discuter toute la matinée entre collègues sur les propositions qui nous étaient faites. Et donc, à 13h à Mende, bon, la négociation s'est très bien passée. On va dire que le ton un peu hautain avait changé de la part de la direction.
Mmh.
On était beaucoup plus dans la conciliation parce que je pense que la Poste avait compris qu'il y avait de la détermination de notre côté. Et au bout du bout, on a obtenu satisfaction sur nos principales revendications.
Donc pour ça, il a fallu 2 jours de grève.
Voilà.
Et avant ça, combien de courriers, combien de tentatives de...
De multiples réunions. Je dirais d'ailleurs qu'on a vraiment été patients et qu'on a utilisé la grève vraiment comme dernier recours. Je pense qu'on a été gentils, mais là, il y avait un ras-le-bol qui était plus fort que tout. Et c'est pour ça qu'on avait décidé de rentrer dans l'action.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez gagné ?
Concrètement, toutes les heures supplémentaires qui étaient prévues d'ici la fin de l'année 2015 ne se feront pas parce que il va y avoir de l'embauche supplémentaire, avec des CDD, c'est-à-dire des renforts pour faire face notamment à l'afflux massif de colis en période de Noël.
Des heures supplémentaires qui vous étaient imposées.
Oui, ah, qui nous voilà. Étaient imposées, oui, tout à fait. Mm-hmm. Oui. La fameuse sécabilité. Voilà. Donc, il y avait d'ailleurs de nombreux jours de sécabilité qui étaient prévus, et là, il n'y en a plus aucun. Donc, on a déjà, ça c'était le premier point très important.
Mm-hmm.
Le deuxième point, c'est la CDIsation à temps plein sur Florac.
CDIsation, c'est un drôle de mot, ça.
C'est du jargon syndicaliste.
Ouais,
c'est ça.
Un peu. Excuse-moi.
Non, voilà, je vais parler plus clair. Je vais dire qu'on a gagné l'embauche d'un agent à temps plein sur Florac qui va pouvoir permettre de pallier convenablement aux absences, c'est-à-dire remplacer les différents temps partiels qui sont effectifs sur le bureau de Florac. C'était vraiment quelque chose de très important, parce qu'on partait de très bas. Dans un premier temps, il ne s'agissait pas du tout de donner un CDI, et puis après c'était 50%, on était loin du compte, et finalement la direction a accepté sur 100%, donc ça c'est vraiment extrêmement positif. Et le dernier point que l'on demandait depuis maintenant de longs mois, c'est une remise à plat complète de l'organisation actuelle. J'en avais parlé déjà jeudi dernier, mais il y a une organisation qui fonctionne mal, des tournées déséquilibrées. Il y avait un comité de suivi qui aurait dû être mis en place, il ne s'est effectivement jamais mis en place. Cette fois-ci, on a un calendrier d'accompagnement des tournées, une réelle volonté de changer les choses et de remédier à tous ces problèmes-là.
Alors, est-ce que, parce que cette organisation du travail au sein de la Poste, c'est quelque chose qui est décidé au niveau national pour toutes les postes, ou est-ce que les spécificités d'un territoire comme Florac, avec des tournées qui sont quand même assez longues, sont prises en compte ? Comment ça se passe ?
Bah, quand il y a une nouvelle organisation qui est mise en place, le seul but de la Poste, c'est de faire des gains de productivité. Un gain de productivité, en jargon patronal, c'est diminuer de l'emploi, supprimer de l'emploi. Et sur les différents établissements courriers et même guichets de France et de Navarre, ces réorganisations ont lieu tous les deux ans.
D'accord.
Voilà. Et celle qui a été mise en place l'année dernière a déjà supprimé deux emplois, ce qui a provoqué justement ce mal-être au travail et ces dépassements d'horaires réguliers. Et voilà, enfin, c'est le cas de Florac n'est pas typique en lui-même.
D'accord. Mais donc, c'est pris en compte cette spécificité des tournées où vous faites, il me semble, en discutant jeudi, qu'il y avait des personnes qui parlaient de 90 km.
Oui, 90 km, 110, 120, 130. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Poste veut réorganiser régulièrement ses services en argumentant sur le fait que le trafic courrier diminue beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il diminue, ça, on ne peut pas le nier, mais dans nos zones rurales, ça n'a finalement que très peu d'impact. Parce que ce qui fait la majeure partie du travail, c'est les kilomètres. Donc, et pour autant, on nous applique le même tarif qu'ailleurs. Voilà. Mais bon, 10% de 1000, c'est pas comme 10% de 10 000.
Mm-hmm.
Voilà. Quoi qu'il en soit, quand il faut faire 90 ou 110 kilomètres, on va partout tous les jours, quoi.
Alors, cette remise à plat de l'organisation, elle va se faire là rapidement ?
Rapidement, ou... d'ici la fin de l'année.
D'ici la fin de l'année.
D'ici la fin de l'année.
Et après, dans deux ans, tout pourra être remis en jeu ?
Alors, accessoirement, on a gagné quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire que la prochaine réorganisation, avec certainement de nouveaux objectifs de diminution d'emploi, était prévue pour octobre 2015. Et vu comme ça se passe actuellement, la direction a décidé de reporter sur 2016. Donc on aura gagné ça en plus.
D'accord, ok. Une année de plus.
Voilà.
Bon, très bien. Du coup, pas d'autres perspectives de mobilisation pour l'instant ? Vous allez...
On sera de toute façon vigilant sur les engagements donnés par la Poste. Je pense que la Poste sera attentive à la situation parce que on a démontré qu'on pouvait se mobiliser fortement, qu'en plus on avait le soutien de la population. Ça a compté énormément dans les prises de décision de la Poste. Et on sera vraiment vigilant pour que ces mesures-là soient appliquées concrètement.
Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour ces explications. Tu restes avec nous quand même pour la suite.
Oui, bien sûr, ça m'intéresse aussi. Hein.
Tu veux rajouter quelque chose sur cette mobilisation-là ou
Non, je pense que ça a été un moment de belle solidarité.
Vive la lutte, quoi.
C'est ça.
Allez, on s'écoute une reprise. Vous allez trouver le titre assez facilement. C'est les Reines Prochaines qui chantent.
Knocking at your neighbor's door, knocking at your neighbor's door. Let's go and see what they've got all private. What could it be they keep in their fridge? Let's see their living room. You're dancing there. Let's be.
find the door unlocked. Feel free to walk in and have a close look around. But be very careful, don't leave too many tracks. You might realize the picture you had of your neighbor was completely wrong, and you want to know more and more. Memorize all you can see and drink every little note you can find lying around on the desks and tables. See what channel the radio's tuned on. You might want to listen to some of the records. Go check the bathroom. Read the names of beauty products and medicaments.
Sur Radio Bartas en 7.0, c'est le direct qui continue. Et en attendant l'arrivée de Patricia, je vous propose d'écouter la bande-son d'un petit film qui a été réalisé par le collectif des cinéastes pour les sans-papiers, un collectif qui regroupe de nombreux professionnels du cinéma, de l'audiovisuel, dont des très connus, mais on ne va pas les citer puisque c'est un collectif et qui font ça ensemble pour soutenir les sans-papiers. C'est ça le propos. Donc on en écoutera deux. Celui-ci, c'est le dernier qu'ils ont réalisé, qui date d'un mois à peine.
Nous, sans-papiers de France, nous déclarons. Nous vivons parmi vous, pour la plupart, depuis des années. Nous sommes en général entrés régulièrement sur le territoire français. Nous avons été arbitrairement rejetés dans l'illégalité par le durcissement de lois successives qui permettaient aux préfectures de ne plus renouveler nos titres de séjour et par des restrictions apportées au droit d'asile. Nous sommes parfois des célibataires qui permettons souvent à nos familles de survivre au pays, mais nous vivons fréquemment aussi avec nos conjoints et nos enfants nés en France ou venus tout petits. Nous avons en France nos familles, mais aussi nos amis. Nous payons nos impôts, nos loyers, nos charges et nos cotisations sociales lorsqu'on nous permet de travailler régulièrement. Quand nous ne connaissons pas le chômage et la précarité, nous travaillons durement dans la confection, la maroquinerie, le bâtiment, la restauration, le nettoyage et bien d'autres secteurs. Nous subissons les conditions de travail que nous imposent les entreprises et que vous pouvez refuser plus facilement que nous, car être sans papier fait de nous des sans-droits. Nous demandons des papiers pour ne plus être victimes de l'arbitraire des administrations, des employeurs, des propriétaires. Nous demandons des papiers pour ne plus être exposés à la délation et au chantage. Nous demandons des papiers pour ne plus subir l'humiliation des contrôles aux faciès, les mises en rétention, les reconduites à la frontière, l'éclatement de nos familles, la peur perpétuelle. Le Premier ministre de la France avait promis que les familles ne seraient pas séparées. Nous demandons que cette promesse soit enfin tenue. Nous demandons que les conventions européennes et internationales auxquelles a souscrit la République française soient respectées. La France doit rester la patrie des droits de l'homme. Nous comptons sur le soutien d'un grand nombre de Français dont les libertés pourraient se trouver menacées si nos droits continuaient d'être ignorés. Les exemples de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et à plusieurs reprises de la France même démontre qu'une régularisation globale est tout à fait possible. Nous demandons notre régularisation. Nous ne sommes pas des clandestins. Nous apparaissons au grand jour.
Voilà, donc c'était la bande-son d'un petit film que vous pouvez trouver très facilement, soit sur le site donc, de ce collectif de cinéastes pour les sans-papiers, soit sur YouTube. Et donc, Patricia est arrivée. Bonsoir, Patricia.
Bonsoir.
Tu fais partie de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Peut-être avant d'aller plus loin, si tu peux nous rappeler un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce réseau ?
Alors le réseau Éducation sans frontières, ça fait 10 ans cette année qu'il existe. Ça a démarré en région parisienne, quand il y a eu des enfants, enfin des familles qui ont été expulsées, et que y a des enseignants et des parents d'élèves dont les enfants étaient copains avec des enfants de ces familles qui ont réagi. Et donc c'est à partir de là que s'est monté le réseau Éducation sans frontières, qui après a essaimé, je dirais, dans beaucoup de départements. Bon, on compte au moins 200 collectifs réseau Éducation sans frontières, en France, Outre-mer, au Maroc, en Belgique. Voilà, donc l'objectif du réseau Éducation sans frontières, c'est d'aider et de soutenir les familles qui sont donc sans papier. C'est aussi, c'est un objectif qui s'est élargi, puisqu'après est apparu le problème, par exemple, des jeunes majeurs, c'est-à-dire ces jeunes qui font partie de familles qui ont été régularisées, qui, quand ils atteignent 18 ans, doivent demander des papiers et n'en ont pas forcément, alors que leur famille est en France. Soutenir aussi bien des conjoints, par exemple, de Français, qui ont aussi du mal à obtenir des papiers, ou maintenant des mineurs étrangers isolés qui arrivent en France et qui sont seuls.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire des jeunes majeurs, c'est-à-dire que des parents, des enfants qui ont grandi ici avec des familles qui ont été régularisées, quand ils arrivent à leur majorité, ils n'ont pas systématiquement des papiers?
Non, ils n'ont pas systématiquement des papiers. À 18 ans, il faut faire une demande, effectivement, de titre de séjour.
D'accord.
Que la famille soit là depuis très longtemps ou seulement depuis quelques années, c'est le même problème. Il faut demander un titre de séjour que le préfet peut accorder ou refuser.
D'accord. Donc il y a une section, je ne sais pas comment on appelle, un comité RESF pour...
Un réseau,
voilà, pour la Lozère.
Tout à fait.
Qui, depuis quelques mois, s'active, vu la situation. On va peut-être parler de la situation précise des trois familles de Lozère qui sont menacées actuellement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on réécoute. Donc tu dis que le réseau a 10 ans. Eh bien là, j'ai un son qui date de 2007 et qui s'appelle « Laissez-les grandir ici ».
Voilà, alors c'est vrai que le réseau a 10 ans, d'un point de vue national. En Lozère, il a 7 ans, il date de 2007, justement.
Nous sommes des enfants de sans-papiers.
Nous sommes des enfants de sans-papiers.
Un sans-papiers, c'est quelqu'un qui n'a pas de carte de séjour, même s'il est en France depuis longtemps.
Comme beaucoup d'entre vous, nos parents sont venus d'ailleurs. Ils ont su la violence, la misère. Ils sont venus pour travailler et pour nous donner une vie meilleure.
Certains d'entre nous sont nés ici. Avec ou sans papier, la France est notre pays.
On vit dans des hôtels meublés, des appartements, des chambres où on s'entasse.
Tous les jours, on a peur.
Tous les jours, on a peur.
On a peur que nos parents soient arrêtés par la police quand ils vont au travail, quand ils prennent le métro.
On a peur qu'on les mette en prison.
Que nos familles soient séparées et qu'ils nous renvoient dans des pays qu'on ne connaît pas.
On y pense tout le temps, à l'école aussi. Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on va à l'école?
Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on va à l'école?
L'été dernier, nos parents et nous, on a eu l'espoir d'avoir enfin des papiers.
On a fait des dossiers, on a passé la nuit à faire la queue devant des préfectures.
On s'est inscrit dans des bureaux. On a cru qu'on serait régularisé, que le cauchemar serait terminé.
On remplissait tous les critères.
Mais on nous a dit non.
Nous sommes venus à visage découvert, avec nos noms, nos adresses. Ceux qui ont eu leur papier avaient le même dossier que nous. Pourtant, on nous a dit non, arbitrairement.
Et pourtant, on nous a dit non, arbitrairement.
Maintenant, on est en danger et on doit se cacher. Pourquoi cette injustice ?
Nous ne voulons plus vivre dans la peur. Nous voulons que la France nous adopte. On veut être régularisés. Laissez-nous grandir ici.
Laissez-nous grandir ici.
Laissez-nous grandir ici.
Voilà. Donc ça date de 2007. Les choses n'ont pas forcément bien évolué depuis.
Non, c'est toujours d'actualité, effectivement.
Les gouvernements changent, mais les politiques en matière d'accueil sont les mêmes.
Sont les mêmes, voire s'aggravent.
S'aggravent.
Oui. Je pense que là, au fil des gouvernements, justement depuis 2007, depuis qu'il y a le réseau en Lozère, nous, on voit que ça s'aggrave au niveau de la Lozère, au niveau national, au niveau européen. Et c'est vrai que on peut pas dire qu'il y ait vraiment d'amélioration. Tout ce que disent les enfants qu'on entend sur cette bande-son, il y a des tas d'enfants en France et même et en Lozère qui peuvent le dire. Mmh. Des familles qui ont peur, des enfants qui vivent dans l'angoisse, que les parents soient arrêtés. C'est ça leur quotidien.
Et puis c'est vrai que je pense à cette opération Mos Maiorum qui a eu lieu en octobre, là, où une gigantesque chasse aux migrants à travers toute l'Europe, avec plus de 18 000 hommes mobilisés, qui sont allés interpeller des personnes dans les gares, sur les grands axes, etc., avec comme mission avouée de découvrir les réseaux de passage, et avec comme conséquence beaucoup d'expulsions dans les 48 heures, sans possibilité pour les personnes de se défendre ou quoi que ce soit.
Tout à fait.
Alors, la Lozère, venons-en à ce qui se passe par chez nous.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Eh bien, c'est vrai que ça fait là depuis un mois, depuis le début du mois, qu'on a donc trois familles d'origine arménienne qui sont vraiment fortement menacées d'expulsion. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une multiplication des démarches, des convocations par la préfecture en direction de ces trois familles. Alors, ça a commencé le 3 novembre avec une famille donc qui est sur Mende, la famille Berakian, qui a été convoquée au commissariat de police pour une formalité, c'est-à-dire pour une audition administrative et prise de photos de tous les membres de la famille. Donc ce sont les parents qui ont été convoqués, mais avec leurs enfants. Ils ont trois enfants, 6 ans, 3 ans, 3 mois.
Ils ont pris en photo un bébé de 3 mois ?
Voilà, alors oui, effectivement, on a la même réaction. Ils prennent en photo un bébé de 3 mois, oui. Et ils sont restés quand même 2 heures au commissariat, malgré les pleurs des enfants. Donc nous, on était une cinquantaine devant le commissariat, on a attendu qu'ils puissent ressortir. Et en fait, pourquoi on les convoque au commissariat ? C'est pour, effectivement, une audition administrative, c'est-à-dire on va remplir des tas de papiers qui vont permettre à la France de demander à l'Arménie de reprendre ces personnes. C'est-à-dire que la France pourra les expulser dès qu'elle a l'accord de l'Arménie, ce qui doit être fait déjà depuis le 3 novembre.
D'accord.
Voilà, alors après...
C'est une famille qui est demandeuse d'asile. Quelle est sa situation ?
Alors, les familles dont on parle, et la plupart des familles qu'on soutient, ce sont des familles qui ont été demandeuses d'asile, à qui la France a refusé le statut de réfugié politique, et qui ont reçu de la part de la préfecture une obligation de quitter le territoire français, et qui ont fait un recours qui a été négatif. Donc ça veut dire qu'elles ont épuisé tous les recours, qu'elles sont sans papier, et que la seule personne qui peut les autoriser à vivre en France en leur donnant un titre de séjour, c'est le préfet de la Lozère. Voilà.
Peut-être ça vaut le coup qu'on revienne un peu sur cette procédure de demande d'asile et sur comment on l'accorde ou pas.
Oui, c'est quand même un peu...
C'est un peu compliqué, mais il y a des critères quand même assez simples qui sont alors dits, écrits dans le papier. Après, effectivement, que ça débouche sur l'obtention de papier, c'est pas évident. Mais si je regarde un article donc, du CESEDA, toute personne qui, craignant, avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui se trouve hors du pays dont elle est ressortissante, et qu'elle ne peut réclamer la protection de ce pays. Donc ça, après, c'est des histoires de témoignages, de faits que certaines familles sont tout à fait capables de produire pour justifier leur demande d'accueil, non ?
Non, c'est très très compliqué, parce qu'en fait, ils font une demande d'asile donc à l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, l'OFPRA. Et cette demande doit effectivement comporter des preuves, mais des preuves de tout. Vous recevez des menaces. Comment on prouve qu'on reçoit des menaces ? Une femme qui est violée, comment elle prouve qu'elle a été violée ? Voilà, donc c'est très compliqué. Et puis, selon le pays d'où vous venez, on va... Effectivement, ça va être regardé avec plus ou moins de bienveillance aussi.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est la première partie. Après, il y a un recours possible devant la Cour nationale du droit d'asile, où là, il y a un avocat qui va vous aider à défendre votre dossier. Mais il y a quand même très très peu de gens qui obtiennent l'asile en France. C'est moins de 20%.
Moins de 20% des demandes.
Voilà.
D'accord. Donc cette famille aujourd'hui, elle est en attente...
Donc voilà, cette famille-là qui est à Mende peut être expulsée du jour au lendemain. Et ce n'est pas la seule famille. Hein. Voilà, il y a aussi... le lundi, c'était la famille Berakian à Mende. Le jeudi, c'est la famille Sardarian qui est là à Florac, autour desquelles c'est, de laquelle s'est constitué un comité de soutien, qui a reçu un courrier de la préfecture avec un ultimatum. C'est-à-dire que le préfet demande au père, en un mois, il lui demande de trouver un emploi. Ça veut dire qu'il faut passer une annonce à Pôle emploi qui ne soit pas satisfaite, puisqu'il y a une priorité aux gens qui sont français. Ça veut dire qu'il faut remplir un dossier auprès de la direction du travail, la directe maintenant.
Une priorité aux gens qui sont français ou aux gens qui ont des titres de séjour ?
Et aux gens qui ont des titres de séjour, effectivement. Les deux. Aux gens qui sont en situation régulière ou qui sont français. Voilà, il faut faire tout ça. Et en plus de lui apporter la preuve qu'il allait repartir en Arménie chercher un visa. Voilà, quand on a du travail, on peut parfois obtenir un visa. C'est quand même extrêmement rare, extrêmement hasardeux. La France donne ses visas avec une grande parcimonie. Ça veut dire qu'en fait, s'il part, déjà, bon, il est en danger dans son pays, il n'a pas l'argent pour y aller, mais il n'aura pas forcément ce visa. Ça veut dire qu'en fait, il ne pourra pas revenir. On lui demande de s'expulser tout seul. En gros.
On lui demande voilà. D'aller risquer sa vie dans un pays qu'il a fui justement parce qu'il était en danger voilà. Là-bas avec sa famille.
Voilà.
Pour récupérer un papier administratif.
Voilà, qui lui permettrait de revenir.
D'accord.
Et donc, il a un ultimatum d'un mois. Donc, ça veut dire qu'à partir du 7 décembre, eh bien, cette famille, ils peuvent l'expulser du jour au lendemain, venir l'arrêter et l'emmener à l'aéroport pour qu'elle reparte en Arménie.
Il peut aussi faire l'inverse. C'est ça qu'il faut rappeler.
Alors, ça, bien sûr, c'est bien pour ça qu'on bouge. Il peut toujours faire l'inverse.
Et alors, une troisième famille ?
Et donc, il y a une troisième famille à Langogne, autour de laquelle il y a aussi un comité de soutien important, la famille Kamalian. Donc, cette famille, pareil, déboutée du droit d'asile, a été convoquée à la préfecture le 13 pour être assignée à résidence. Donc, ça veut dire qu'elle a un lieu dont elle ne peut pas loger ailleurs. Ils ont d'ailleurs dû quitter le logement qu'ils occupaient, qu'ils partageaient avec une famille albanaise, pour être logés à l'hôtel. Et ils doivent pointer à la gendarmerie, ils doivent être présents à l'hôtel. Alors, cette famille, les papiers sont vraisemblablement déjà prêts pour qu'on puisse les réexpédier, puisqu'ils ont déjà été convoqués à la gendarmerie au mois d'octobre. Quand on voit le coût d'une pension complète à l'hôtel pour trois personnes, on se doute bien que ça ne va pas durer très longtemps. Alors il y a l'aberration de cette démarche, de ce coût, mais c'est vraiment la dernière étape avant l'expulsion. Ça veut dire que demain matin, ce soir jusqu'à 10h ou demain matin à partir de 6h, on peut venir les chercher pour les réexpédier en Arménie.
Donc ces familles, ça fait quelques temps que vous êtes avec elles, que vous les soutenez. Est-ce que vous avez eu, en tant que réseau Éducation Sans Frontières, l'occasion d'avoir un entretien avec le préfet du département ?
Alors par rapport à la famille de Florac, oui, puisque ça fait 2 ans qu'ils demandent un titre de séjour. Et bon, le préfet systématiquement nous renvoie au texte de loi et aux circulaires qui existent. C'est vrai que le préfet est un très très bon élève de la politique du gouvernement actuel et de l'Europe. Il applique vraiment à la lettre les lois et les circulaires. Et donc, pour lui, il n'y a pas d'autre solution que le père de famille retourne chercher un visa qui lui permette de revenir légalement dans le pays. Voilà, on a discuté à plusieurs reprises, nous, des élus. Et voilà, il ne revient pas sur sa position. Il estime qu'il lui donne une chance en lui proposant cela.
D'accord.
Pour les autres familles, c'est des familles qui ont été déboutées plus récemment. Donc on n'a pas encore eu de rendez-vous avec le préfet pour en discuter. Il y a eu des courriers, mais il n'y a pas eu d'entretien.
D'accord. On rappelle, je voudrais rappeler quand même, c'est toi qui m'avais appris cette information, qu'il y a quand même une campagne publicitaire pour faire venir les gens en Lozère, qui s'appelle « Votre nouvelle vie est ici », c'est ça ?
Lozère, nouvelle vie.
Lozère, nouvelle vie, qui a coûté 600 000 euros pour attirer des nouveaux habitants en Lozère, et que là, on veut expulser 3 familles.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça a été rappelé, puisque la famille qui est à Langogne a eu le parrainage du petit, là, ce week-end. Et effectivement, lui était agriculteur, donc les gens qui sont à Langogne disent « Mais pourquoi il ne peut pas rester là, quoi ?» On cherche des habitants, il y en a qui veulent s'installer ici, et non, ce n'est pas possible.
D'où l'importance de se mobiliser.
Oui, c'est sûr que là, ça fait un moment quand même que cette politique d'immigration, ça va de mal en pire, on va dire, et que ça s'aggrave. Et je pense que c'est pas fini, quoi. Qu'on est vraiment dans quelque chose qui va aller en augmentant. Hein. On prépare une nouvelle loi sur l'asile. Et c'est vrai qu'il faut se mobiliser maintenant contre l'expulsion de ces trois familles là dont on vient de parler. Mais il y en a d'autres qui arrivent derrière, il y en a d'autres partout en France. Et c'est vrai qu'il faut, je dirais, se mobiliser vite et être très nombreux à réagir. Hein. C'est ça qui me paraît important et c'est pour ça qu'on appelle justement pour jeudi à être le plus nombreux possible. Alors, il n'y a pas que le réseau Éducation sans frontières qui appelle à cette manifestation de jeudi. Il y a aussi il y a des associations, il y a la CIMAD, il y a l'association pour le souvenir de Rio Cross. Il y a aussi des syndicats, la FSU, la CGT, et des partis, le parti de gauche, le parti communiste et Europe Écologie Les Verts.
D'accord. Donc le rendez-vous, rappelle-nous, c'est 18h ?
Alors le rendez-vous, c'est jeudi, donc place de la cathédrale, devant la cathédrale à 18h, nous demandons aux gens d'amener des lampes, des lanternes et surtout des peluches dont ils n'ont plus l'usage. Alors c'est vrai qu'on a choisi la date du jeudi 20 parce que c'est le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et que c'est vrai que là, les trois familles qu'on soutient, il y a 5 enfants, dont 4 sont scolarisés, le dernier à 3 mois, effectivement. Voilà, ils sont scolarisés à Florac, à Langogne, à Mende. Et que, comme c'était dit dans la bande-son qui est passée avant, on ne peut pas accepter que ces enfants soient arrachés à leur école, à leurs copains, à leur cadre de vie. Ils ont toujours été scolarisés en France, ils n'ont jamais été scolarisés ailleurs. Donc, recommencer une scolarité dans une nouvelle langue. Donc voilà, symboliquement, on a choisi cette date du 20 novembre. Donc, de venir nombreux, de venir avec des lampes et surtout des peluches. Ces peluches, ben, c'est un peu... on aimerait bien les offrir à ces enfants qui risquent d'être expulsés, mais ils ne pourront pas les prendre dans l'avion, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, on espère qu'il y en aura le plus possible. Et c'est vrai qu'elle symbolise un peu bah, tout ce que ces enfants vont laisser ici.
Eh bien, il va falloir organiser du covoiturage Florac Mende pour aller donc à 18h à cette manifestation. Guillaume, tu voulais réagir ?
Oh, moi, j'y serai, il n'y a pas de problème.
Hein. Voilà. Moi, je suis parti du
comité de soutien sur Florac. Et, voilà. Moi, ce que je constate, c'est que à l'heure de la mondialisation, l'argent il circule sans problème, mais les humains, non. Voilà, c'est dramatique.
Les humains, toujours pas. Ce comité, justement, sur Florac, est-ce qu'il y a un moyen de contacter le comité pour des personnes qui nous entendraient, qui voudraient participer au soutien ?
Oui, pour contacter le comité, je vais vous donner un numéro de téléphone. C'est le 06 32 93 65 60.
Très bien. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, écrivez-nous à Radio Bartas ou appelez-nous aussi. Et puis, on vous fera suivre les informations. Et donc, on espère qu'il y aura un petit covoiturage pour aller le plus nombreux possible à Mende ce jeudi.
Voilà, parce que c'est bientôt aussi. Il va y avoir les vacances de Noël et c'est souvent qu'il y a des expulsions pendant les vacances de Noël. Nous, on souhaiterait que le préfet fasse un geste, justement, à ce moment de l'année pour les enfants et pour leur famille.
Merci beaucoup Patricia d'être venue jusqu'ici. Il est 20h, il va falloir qu'on se quitte, même si on pourrait parler un peu plus longtemps. Merci à tous les deux, en tout cas Guillaume, merci Patricia. Et puis rendez-vous jeudi à 18h, place de la cathédrale à Mende.